Nous sommes ce que nous mangeons. Si comme nous, vous pensez que notre alimentation peut changer le monde, vous êtes au bon endroit. Je suis Fanny Giansetto, cofondatrice et présidente d'Écotable. Écotable s'est donné pour mission d'accompagner le secteur de la restauration dans sa transition écologique en permettant aux restaurateurs de mesurer leur impact environnemental, de se former aux enjeux écologiques et de valoriser leur travail auprès du grand public. Dans ce podcast, j'explore les enjeux sociétaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. Je donne la parole à des experts, mais aussi à celles et ceux qui nous nourrissent au quotidien, qu'ils soient restaurateurs, agriculteurs, entrepreneurs ou militants. La transition écologique ne se fera qu'avec le plus grand nombre. Pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner à ce podcast, le noter et nous laisser un commentaire, suivre Écotable sur les réseaux sociaux, mais surtout venir manger dans les restaurants Écotable. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Après avoir consacré un épisode sur la consigne avec Nicolas Piffetot, nous allons aujourd'hui nous intéresser à un autre type de contenant très utilisé, notamment pour la vente à emporter, les emballages en carton et en papier. Ces contenants ont le vent en poupe depuis le début de la crise sanitaire. Il faut dire qu'ils sont souvent considérés comme plus écologiques que le plastique. Or, une enquête très récente de plusieurs ONG alerte sur le traitement de ces produits au perfluoré, appelé également PFAS. Ces composés chimiques donneraient aux emballages une plus grande résistance et une meilleure imperméabilité. Au-delà de leur grande persistance dans l'environnement, qui confère au PFAS le titre de « produit chimique éternel », les effets de ces composés sur la santé sont inquiétants. En migrant vers nos aliments, ces substances pourraient avoir un impact sur les systèmes immunitaires, reproducteurs et hormonaux et ainsi être liées à certains cancers. Pire encore, les PFAS ne se retrouveraient pas seulement dans les emballages carton, mais dans beaucoup de nos produits quotidiens, comme les produits d'hygiène, les lentilles de contact, l'eau du robinet, les poils antiadhésives et j'en passe. Alors qu'en est-il ? Faut-il se méfier des emballages carton et comment éviter d'être contaminé par ces PFAS de façon générale ? Pour en parler, je suis avec Nicolas Malval, chargé de projet et coordinateur scientifique chez Génération Future, une des ONG qui a précisément diligenté l'enquête sur le sujet. Bonjour Nicolas.
Bonjour à tous.
Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter ?
Alors du coup, moi c'est Nicolas Malval, je suis effectivement ingénieur chargé de mission pour Génération Future. Donc Génération Future, c'est une association d'utilité publique qui est spécialisée dans le domaine de l'environnement et de la santé. Et donc plus particulièrement, on s'occupe de faire un petit peu, on va dire, de vulgarisation scientifique au niveau de l'impact des polluants sur la santé et sur l'environnement. Et à titre personnel, du coup, ça signifie de la rédaction d'articles pour le grand public et également d'études, comme on va voir plus tard sur notamment CPFAS. Et également la participation à un certain nombre de groupes de travail à l'échelle française et européenne pour faire un petit peu, je dirais, du lobbying, influencer tout ce qui est législation à propos des polluants chimiques.
Et donc, Génération Future, vous êtes spécialisée sur les polluants de façon générale ?
Alors, historiquement, l'association s'est spécialisée dans les pesticides dans un premier temps. Et depuis quelques années, on s'est un peu élargi en termes de domaine de compétences avec, du coup, les polluants chimiques un peu du quotidien, on va dire, notamment les polluants intérieurs particulièrement.
D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est que les PFAS précisément ?
Alors du coup, les PFAS, c'est une famille chimique extrêmement complexe. Donc on compte environ, on va dire, un peu moins de 5000 composés distincts, 4700. Et ils sont en fait regroupés de cette manière de par leurs caractéristiques chimiques, leur structure chimique. C'est des molécules qui vont comporter des atomes de carbone et de fluor. Et en termes chimiques, on sait que cette liaison entre le carbone et le fluor est l'une des plus fortes connues dans la nature, et c'est justement ce qui va leur donner leurs propriétés toutes particulières, leur persistance à la fois dans l'environnement et dans nos organismes. Et du coup, ces substances sont utilisées pour de nombreuses propriétés industrielles, et particulièrement leur imperméabilité, donc c'est-à-dire leur capacité à répulser l'eau et les graisses.
Mais c'est très effrayant quand on les voit qualifiés de produits chimiques éternels. Est-ce que c'est vrai ça ? Est-ce que c'est des produits chimiques qui ne disparaissent jamais ?
Alors, on parle, c'est un peu un abus de langage, évidemment, mais maintenant, on sait que... alors, en chimie, on parle de demi-vie, c'est-à-dire le temps pour que la moitié de la concentration disparaisse de l'environnement. Et pour certains de ces PFAS, on a des demi-vies qui peuvent s'étendre sur plusieurs siècles. Donc, évidemment, sur l'échelle d'une vie humaine, on peut évidemment considérer que c'est quelque chose d'éternel à l'échelle de la vie.
Ok, c'est effrayant. Quelle est la différence entre un PFAS et un perturbateur endocrinien ?
Alors, tout simplement, un perturbateur endocrinien n'est pas forcément un PFAS, alors qu'un PFAS est un perturbateur endocrinien, disons.
Est-ce que tu peux rappeler déjà ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien, peut-être ?
Alors, du coup, un perturbateur endocrinien, c'est une substance ou un mélange de substances qui va être capable de déséquilibrer un petit peu tout, toutes les concentrations d'hormones dans l'organisme et ainsi induire un certain nombre d'impacts délétères sur la santé. Et notamment pour dans le cas des PFAS, cette action va se traduire sur par des mécanismes au niveau des hormones thyroïdiennes. Et on sait très bien aujourd'hui que la thyroïde et les hormones qui y sont produites sont notamment très fondamentales dans le développement et notamment le développement neurologique. Donc ça peut avoir un impact très fort surtout lorsque l'exposition se fait à un jeune âge ou de manière prénatale lorsque la femme est enceinte.
Oui, et on sait qu'aujourd'hui, a priori, tous les fœtus sont quand même contaminés par ces perturbateurs endocriniens.
Totalement, de par la contamination directe de leur mère, ils sont eux-mêmes contaminés.
Et sait-on quelles PFAS sont des perturbateurs endocriniens ? Est-ce que dans toute cette famille, alors tu nous as cité, je ne sais plus le nombre exact que tu nous as dit de
4700,
PFAS, 4700, on connaît leur effet spécifique de chaque. Est-ce qu'on connaît aussi l'effet cocktail ?
Alors, il y a une grande difficulté, justement, ce qui se pose avec cette famille, c'est de par la grande diversité de ces molécules, on a été incapable à l'heure actuelle, et on le sera encore dans le futur, de les étudier tous dans leur ensemble individuellement. On va dire qu'aujourd'hui, la littérature scientifique s'accorde sur l'étude, on va dire, d'une cinquantaine de PFAS différents, et qui nous permettent quand même d'avoir une bonne idée de la toxicité de l'ensemble de la famille. Et donc, pour aller un peu plus dans le détail à ce niveau-là, on a notamment, par exemple, le PFOA et le PFOS, qui sont les premiers PFAS qui ont été réellement étudiés à la fin des années 90, début des années 2000, et qui sont désormais dans la Convention de Stockholm, donc pour les polluants organiques persistants. Et donc, par exemple, pour ces substances-là, on sait que, comme tu l'as dit dans l'introduction, on a notamment une augmentation des cancers qui est observée, notamment cancer des reins, des seins, des testicules, des ovaires.
Donc des cancers hormonodépendants.
Exactement, c'est totalement ça. Une action également sur le système immunitaire. On a mis en évidence, les études ont mis en évidence, notamment une moins bonne réponse à la vaccination liée à l'exposition au PFAS. Et du coup, comme on disait tout à l'heure, une action de type perturbateur endocrinien, donc un dérèglement des hormones au niveau de la thyroïde.
Oui, et tout est lié, j'imagine, le dérèglement des hormones pouvant entraîner des cancers derrière.
Tout à fait. La difficulté aujourd'hui, juste pour compléter, avec les perturbateurs endocriniens dans leur généralité, c'est toujours de mettre en lien un mécanisme d'action donné qu'on a identifié clairement avec un effet sanitaire également identifié. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est de faire le lien entre les deux, parce que généralement, les deux sont espacés d'une grande période de latence, pouvant aller de quelques années à quelques décennies. Donc entre une exposition, par exemple, pour un agriculteur qui va être exposé à un pesticide perturbateur endocrinien durant ses premières années de carrière, à 20 ans, 30 ans, il peut ensuite avoir un effet délétère qui apparaisse à 50 ans, 60 ans. Mmh. Et c'est là vraiment que la difficulté se pose avec les perturbateurs endocriniens.
Oui, oui. Question cruciale en termes juridiques. Moi je suis docteur en droit, donc j'ai étudié beaucoup ces questions-là, de pouvoir incriminer les personnes notamment qui créent ces molécules, parce que extrêmement difficile de pouvoir les lier concrètement à une maladie. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans votre enquête concrètement ?
Alors du coup, pour recadrer un petit peu, replacer l'enquête dans son contexte, donc le but a été de faire un petit peu, je dirais, une photo de l'ensemble des emballages alimentaires et de la vaisselle jetable qui était vendue à travers l'Europe. Donc au vu, tout de suite je fais un petit disclaimer, au vu du nombre d'échantillons qu'on a analysé, on peut pas dire que c'est une vérité générale, c'est pour ça que je parle de photo, mais qui nous permet quand même d'avoir certaines conclusions. Donc avec 8 autres associations européennes, On a pendant un an environ échantillonné un certain nombre d'emballages alimentaires et de vaisselle jetable qui correspondaient à trois critères, on va dire. Le premier de ces critères, c'était des emballages en papier ou carton qui étaient vendus comme résistants à la graisse, donc pour lesquels on s'attendait à avoir un traitement intentionnel au PFAS, puisque c'est leur propriété première. D'autres échantillons ont été achetés et analysés de par leur propriété, de par leur conception via des matériaux recyclés, pardon. Et encore d'autres échantillons correspondaient à des matériaux en fibres végétales, donc type canne à sucre, qui se veulent souvent plus vertueux, biodégradables, etc.
Les fameux plastiques biosourcés ?
On n'a pas eu de plastique biosourcé, c'était vraiment seulement de la fibre végétale.
D'accord.
Ouais. Et du coup, de par ces échantillons, la première chose qu'on a faite, c'est ce qu'on appelle le test de la goutte d'huile. Donc tout simplement, on prenait un échantillon, tous nos échantillons, et on déposait une petite goutte d'huile dessus pour voir si justement il y avait cette propriété de répulsion à l'huile. Donc le résultat, il s'analyse très 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 facilement.
Et tout le monde peut le faire chez soi.
Et tout le monde peut le faire chez soi, c'est ça qui est super. On pose la goutte d'huile sur l'emballage. Si elle reste telle quelle, c'est qu'il y a un traitement ou en tout cas des propriétés oléophobes, donc anti-graisse. Et si la goutte est absorbée ou qu'elle perle un petit peu sur le produit, c'est qu'a priori il n'y a pas de propriétés oléophobes. Donc de par ce test, on a à peu près enlevé la moitié des échantillons achetés, je dirais. Comment on a enlevé ces échantillons? En fait, on a gardé, on va dire, trois quarts d'échantillons qui présentaient des propriétés oléophobes, du coup, pour lesquels on s'attendait à avoir un traitement au PFAS. Et d'autres échantillons ont été gardés également afin d'analyser le niveau de fond en PFAS. Puisqu'on sait aujourd'hui que, étant donné que ces produits chimiques sont éternels, ils se retrouvent même dans les matériaux qui sont recyclés, dans les encres, etc. Donc on s'attendait à avoir même dans des emballages qui ne proposaient pas des propriétés anti-graisse, à avoir quand même des PFAS. Et du coup, en termes de résultats, ce qu'on a pu observer, c'est que déjà, l'utilisation des PFAS était ultra répandue dans nos échantillons. Sur 42 échantillons, 32 présentaient un traitement intentionnel au PFAS. Et ce qui nous a aussi un petit peu surpris, entre guillemets, c'est que les concentrations les plus fortes retrouvées étaient systématiquement pour les échantillons donc en fibres végétales, donc comme je disais, qui sont vendus un petit peu comme biodégradables, etc. Et la présence du coup de ces produits chimiques éternels contredit totalement cette affirmation. Ensuite, un autre test qu'on a effectué sur nos échantillons, c'était un test d'écotoxicité. Alors pour faire simple, le but de ce test était de savoir si les PFAS qu'on avait retrouvés dans nos échantillons avaient le potentiel de dérégler tous les équilibres hormonaux au niveau de la thyroïde. Donc on a pris une hormone de référence qui est la T4. Cette hormone est une des hormones les plus importantes pour le système thyroïdien, son action, en fait, c'est de se fixer sur un récepteur pour donner une information. Voilà, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Et tout simplement, du coup, on a pris une concentration fixe de T4 connue, avec une concentration fixe de récepteur connue également, qu'on a mis du coup en compétition avec nos PFAS pour voir si jamais il y avait une différence en absence ou en présence de PFAS. Et ce qu'on a pu mettre en évidence justement avec ce test, c'est qu'effectivement, on observait une différence, et donc que potentiellement, les PFAS présents dans les emballages alimentaires avaient le potentiel de dérégler les équilibres hormonaux au niveau de la thyroïde.
Et ça, par rapport du coup aux 33 matériaux qui avaient été traités, quel était le pourcentage de PFAS qui avait ce pouvoir-là?
Alors, du coup, on a, pour ce test-là, on n'a pas identifié un PFAS, on l'a pris dans son ensemble en tant que mélange.
D'accord. Donc, vous n'aviez pas le chiffre de...
Non, okay. Du tout. Et pour compléter, du coup, cette question, on a eu une difficulté aussi, c'est que de base, sur notre analyse, on souhaitait justement identifier de manière précise les PFAS présents. Donc, on en a testé entre 30 et 40 de mémoire. Et en fait, il a été impossible dans 99% des cas d'identifier avec précision quel PFAS avait été utilisé pour le traitement. Donc, ce qui met en lumière que les analyses actuellement disponibles sont pas suffisantes, en tout cas, pour identifier de manière claire les PFAS présents.
Ouais, c'est un peu la question qui se pose de manière générale avec les perturbateurs endocriniens ou avec les résidus de pesticides. Quand on nous dit on a une alimentation sans résidus de pesticides, mais ça dépend encore de ce qu'on vérifie concrètement quand on fait les analyses, et on sait qu'on n'analyse pas tout.
Ouais, totalement. C'est aussi des études qu'on a menées sur les analyses des contrôles sanitaires de l'eau et de l'air, où une critique qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, entre par exemple les différentes ARS en France, les différentes régions ou départements, on a des... Quand on regarde les analyses qui sont faites, les substances qui sont recherchées, dans certains départements, on va rechercher une cinquantaine de substances, quand dans d'autres, on en recherche 600. Mmh. Forcément, plus on cherche, plus on trouve, quoi. Mmh. Donc, c'est un peu la difficulté.
Et ça m'amène à une question, parce que tu nous parles de l'eau, et moi, quelque chose qui m'a marqué, alors pour tous ceux qui ont envie d'en savoir plus sur ces PFAS, on a une super vidéo qui a été faite sur le site de Génération Future, sur la page justement consacrée aux PFAS, et ce qui est assez effrayant, c'est qu'en fait, je le disais dans l'introduction, on ne les retrouve pas seulement dans les emballages carton, même si l'enquête se limitait aux emballages, mais aussi dans les produits d'hygiène qu'on va utiliser tous les jours, dans l'eau du robinet, dans les lentilles de contact et j'en passe. Et là, tu nous parles de l'eau du robinet précisément. On sait aujourd'hui que les PFAS sont dans l'eau du robinet ?
Oui, alors du coup, à l'heure actuelle, les PFAS ne font pas partie des molécules qui sont contrôlées de manière régulière en France. Maintenant, en 2017, l'ANSES, donc l'Agence de sécurité sanitaire au niveau français, a fait une étude un petit peu exploratoire sur le sujet et a mis en évidence qu'effectivement, ils étaient présents dans les échantillons d'eau qui sont utilisés pour la production d'eau destinée à la consommation humaine. Et donc, ça serait intéressant de le faire un peu plus... non pas de manière exploratoire, mais de manière plus régulière pour effectivement quantifier à quel point ils sont présents justement.
Vous voulez pas le faire ? J'imagine que ça coûte de l'argent.
Ça coûte très très cher.
Tu bois plus d'eau du robinet ?
Si, je bois de l'eau du robinet tout le temps. C'est vrai qu'après, on pourra parler du plastique, mais ça pose aussi d'autres problématiques. Donc.
Ça pose d'autres problématiques, mais c'est intéressant parce que j'ai pas plus tard qu'hier enregistré un épisode sur les pesticides où la personne interviewée a arrêté de boire de l'eau du robinet à cause de la contamination aux pesticides. Donc c'est quand même assez effrayant de voir à quel point la pollution est partout et qu'il est très difficile de savoir quel choix faire. Sur l'impact pour la santé, tu nous as parlé de ça. Est-ce qu'on est sûr aujourd'hui, parce que là tu as analysé les contenants en tant que tels, mais est-ce qu'on est sûr que ces molécules elles migrent ensuite vers les aliments, en tout cas pour les emballages carton?
Alors notre propos s'est basé également sur une étude qui a été publiée en 2020, justement, qui a mis en évidence le fait que ces PFAS pouvaient migrer d'un emballage alimentaire en carton vers l'aliment en question. Et particulièrement, il a été mis en lumière que c'était particulièrement le cas lorsque l'aliment était liquide ou lorsqu'il était il était chauffé, par exemple, directement dans l'emballage au micro-ondes. Ça avait pour conséquence d'augmenter cette migration justement dans les aliments.
Comme pour le plastique, au fond.
Comme pour le plastique, ouais, c'est un petit peu la même chose.
Quelles sont les entreprises qui ont été incriminées par votre enquête ?
Alors, on va dire qu'il y en a pas mal au niveau français. C'était les échantillons chez qui on s'est fourni, c'était surtout des grossistes. Du coup, aucun nom qui va parler spécialement. Maintenant, au niveau européen, forcément, on s'est intéressé à certaines chaînes de fast-food, des chaînes de pizza connues, Domino's Pizza, des choses comme ça, Pizza Hut, bien sûr McDo. Le parallèle intéressant, je pense, qui a été fait du coup dans l'étude, se situe justement sur les échantillons de McDo. Alors, ça ne concerne pas la France. On n'a pas échantillonné en France chez McDo, mais du coup, quatre pays européens ont pu le faire. Du coup, ces pays européens, c'est l'Allemagne, le Royaume-Uni, la République tchèque et le Danemark. Et ce qu'on a pu voir, c'est que du coup, les échantillons, c'était des sachets de frites en l'occurrence. Et ce qu'on a pu voir, c'est que sur le pays comme le Danemark, qui est le seul aujourd'hui à avoir réglementé les PFAS dans les emballages alimentaires. Donc depuis juillet 2020, il y a interdiction de traiter de manière intentionnelle les emballages alimentaires avec des PFAS. Et ce qu'on a pu voir, c'est que cette réglementation, justement, semblait efficace, puisque C'est le seul pays où les échantillons McDonald's n'ont pas présenté justement de traitement intentionnel au PFAS, alors qu'en Allemagne, au Royaume-Uni et en République tchèque, on a trouvé de fortes concentrations en PFAS.
Très intéressant.
Ouais, super intéressant. Du coup, on voit que déjà le changement est possible, qu'ils sont pas essentiels, qu'on peut faire sans, et que la recherche d'alternatives est aussi intéressante et possible tout simplement. Ouais.
Et en France, tu nous dis que c'est des grossistes. J'ai cru voir sur votre site internet que l'entreprise Biocoop était incriminée.
Ouais, exactement. Alors Biocoop, du coup, particulièrement, on a acheté un sac qu'on trouve en caisse, type pour prendre des légumes ou des choses comme ça. Maintenant, c'est le seul échantillon français où on a retrouvé des PFAS seulement sous forme de traces, entre guillemets. Je dis sous forme de traces, c'est-à-dire que la concentration retrouvée était inférieure à justement la norme danoise dont je parlais juste avant, qui nous montre si un traitement intentionnel ou pas est fait. Ah. Donc dans le cas de Biocoop, on était inférieur à cette norme, ce qui signifie que probablement les PFAS retrouvés sont dus soit à une présence dans des matériaux recyclés du sac, puisqu'en l'occurrence c'était un sac issu de matériaux recyclés, soit d'encre recyclée, des choses comme ça.
Oui, parce que c'est un peu le problème d'ailleurs aussi avec le plastique recyclé. Il me semble qu'on peut faire le parallèle, c'est-à-dire que c'est quand même bien de recycler ces matières, et en même temps du coup bah on ne contrôle pas forcément les matières qui sont recyclées, et on peut se retrouver avec des contenants qui sont encore plus problématiques pour la santé. Il me semble qu'une étude avait été faite notamment sur les jouets recyclés des enfants et des bébés, qui montrent à quel point ces jouets étaient contaminés à certains perturbateurs endocriniens.
Ouais, totalement. Et puis le problème se pose surtout là, en l'occurrence, pour les PFAS, quand les substances en question sont très persistantes.
Ouais.
On peut les soumettre à plein de process industriels différents. Ils sont tellement résistants qu'au final, ils restent là à vie, quoi.
Mais donc, quand on voit l'interdiction qui a été faite comme au Danemark, on se dit que c'est possible de l'interdire en France. C'était l'objectif de l'étude ?
C'était totalement l'objectif. Bah, d'ailleurs, il y a des discussions qui sont menées un petit peu dans tous les pays européens, j'ai envie de dire, depuis la sortie de ce rapport-là. Donc, c'est super positif.
Pour une interdiction au niveau européen ?
Pour une interdiction... Pour l'instant, au niveau national, les discussions se font, on espère au niveau européen. Mais maintenant, on voit avec l'exemple, l'illustration du Danemark, que c'est possible, que des alternatives existent. On peut citer par exemple des traitements avec de l'amidon qui se font, qui consistent du coup juste à un petit peu saturer la surface pour pas que l'huile puisse traverser ou l'eau puisse traverser. Voilà, c'est intéressant, et si notre rapport peut aider à un peu, déjà je pense, faire connaître un petit peu plus le sujet au grand public, puisque c'est un sujet qui est finalement pas très connu, alors que c'est des substances hyper répandues, et ensuite si ça peut faire bouger un peu les choses au niveau réglementaire, ça serait génial.
Et vous avez eu des bonnes retombées, des bons retours suite à cette enquête?
Bah, en tout cas, on a eu un certain nombre de contacts avec des industriels qui ont été positifs. Donc ça, déjà, c'est une première bonne chose. Et effectivement, des parlementaires également qui nous ont contactés, déjà pour avoir des informations et pour potentiellement au moins amener des discussions au niveau français, quoi.
Oui, parce que c'est vrai ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est pas grave si on a un emballage en carton, que c'est tellement mieux que le plastique, plus écologique, et on pense même pas à l'impact sanitaire. Moi, j'avoue que je suis un peu tombée des nues quand j'ai vu votre enquête, en me disant waouh, en fait même le carton est vraiment problématique, et le dicton qui dit le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas est vraiment en fait à l'ordre du jour, quoi.
Ouais, c'est clair. Et puis juste pour compléter sur ça, parce que c'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas abordé dans le rapport. Mais sur le plastique, on sait aujourd'hui que l'une des utilisations des PFAS, c'est aussi la production de plastique.
Ah, d'accord.
Donc que ces PFAS se retrouvent également dans le plastique. Donc c'est, j'ai envie de dire, l'alternative, un peu la solution facile qu'on pourrait trouver en se disant, dans les papiers cartons à usage unique, c'est pas terrible. Bon, on va aller vers le plastique. Non, c'est la même chose. Il y a également des PFAS. Donc c'est problématique dans les deux cas.
Ouais. Comment les éviter, ces PFAS, aujourd'hui? C'est quoi le conseil que tu donnerais aux auditeurs et aux auditrices pour éviter le plus possible d'être contaminés? Alors, on n'a pas arrêté de dire qu'ils étaient partout, que ça soit des PFAS ou des perturbateurs endocriniens. Donc, on sait qu'on peut pas les supprimer, mais comment on peut se limiter?
Ouais, effectivement, malheureusement, c'est un peu compliqué. On les retrouve partout dans le monde et dans tous les compartiments environnementaux, que ça soit l'air, l'eau, le sol. Je dirais que pour les éviter, faut forcément privilégier toujours ce qui est emballage réutilisable, type inox vert. Maintenant, sur des astuces du quotidien, c'est vrai que c'est difficile. Je dirais tant que on ne sait pas précisément où ils sont en fait, tout simplement, puisqu'ils sont pas forcément, comme je disais, dans l'eau testée, dans la nourriture. On va pas s'amuser à tester tous nos emballages, etc. Donc aujourd'hui, c'est un peu difficile pour le consommateur d'avoir vraiment des petits réflexes qui peuvent l'aider et le protéger un peu mieux via, enfin, par ses PFAS.
Mais on peut se dire en tout cas que pour les personnes qui essayent d'acheter en vrac pour éviter les déchets, bah, de vraiment amener en fait leur sac, leur propre emballage et ne pas, même chez Biocoop, prendre des emballages à usage unique.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment le conseil, je pense, si on a des emballages réutilisables, c'est vraiment vraiment le mieux, des tupperwares, des petites boîtes, c'est vraiment vraiment l'idéal, quoi, tout simplement.
Et si vraiment on n'arrive pas à se passer d'un emballage, est-ce qu'il y a quand même un emballage meilleur qu'un autre aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire ça?
C'est difficile à savoir parce que aujourd'hui, nous, on n'a pas réalisé d'évaluation des risques via cette consommation. On sait par contre que ces PFAS sont retrouvés dans l'ensemble de la population française. C'est pas moi qui dis ça, c'est du coup une étude de Santé publique France en 2019. Donc, en fait, on est déjà contaminé par ces composés, malheureusement. Dire qu'un emballage est mieux qu'un autre, c'est difficile sans études approfondies, à la fois sur l'exposition et sur la dangerosité en tant que telle des produits. Donc, je pourrais pas répondre de manière très précise à cette question.
Mais tu restes positif, toi, parce que avec cette sensation qu'en fait on est tous contaminés partout, que vous tirez la sonnette d'alarme et encore heureux sur ces questions-là, le fait que ça bouge si peu, même si ça commence à bouger, hein, le Danemark a interdit certaines concentrations de PFAS et on en est très heureux. Mais tu arrives à rester positif là-dessus sur cette crise sanitaire qui est potentiellement devant nous?
Oui, il faut rester positif. De toute façon, il faut se battre pour ce en quoi on croit. Sur la question des PFAS, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très complexe, c'est le nombre d'utilisations qui est faite. Maintenant, on sait que la plupart des expositions et de la contamination qui est faite par les PFAS est alimentaire. Je crois que Santé publique France estimait cette contamination à 90%.
Ah oui.
Donc déjà, si on arrive à interdire ces PFAS dans les emballages alimentaires, c'est en fait un pas de géant qui est fait, même si encore d'autres utilisations sont toujours autorisées. Pour compléter un petit peu ce propos, on sait aujourd'hui que du coup il y a environ à peu près 200 utilisations différentes des PFAS hors utilisation alimentaire. Et donc ce qui serait intéressant justement au niveau de la réglementation, c'est déjà de changer un petit peu de dogme, d'arrêter de considérer les PFAS seulement individuellement, puisqu'on ne va pas s'en sortir, de les considérer vraiment comme une classe, une famille chimique à part entière avec les mêmes propriétés, tout simplement via un principe de précaution. On a mis en évidence un certain nombre de dangers pour certains d'entre eux. Il est assez logique de vouloir croire que les autres ont des propriétés assez similaires. Et donc quelque chose qui serait intéressant au niveau réglementaire, ça serait justement de classer l'ensemble des utilisations des PFAS en fonction d'un critère d'essentialité, de sécurité en fait.
C'est-à-dire ?
Puisqu'à titre d'exemple, du coup, on va citer l'ensemble des utilisations des PFAS. Donc, on a cité les emballages alimentaires, les produits cosmétiques, les produits électroniques. Mais on a aussi un certain nombre d'utilisations comme des tenues de sécurité professionnelles, des extincteurs, des choses comme ça. Et on peut pas aujourd'hui dire du jour au lendemain, on veut plus de PFAS dans les extincteurs, on veut plus de PFAS dans des tenues de protection individuelle. Alors que...
C'est indispensable aujourd'hui.
Voilà, tant que le travail d'alternative n'a pas été fait... On considère, et je pense que c'est assez logique de considérer que la sûreté prévaut avant tout. Mais maintenant, ce qui est super important de faire, c'est justement d'enclencher ce travail de recherche d'alternatives, de pas se dire aujourd'hui c'est obligatoire de les avoir dans tel et tel produit pour telle et telle utilisation, et de se reposer sur ça, de se reposer sur nos acquis. Donc ça serait un travail intéressant à mettre en place au niveau européen, je pense. Et voilà, la priorité, c'est vraiment de stopper dans un premier temps tout ce qui est exposition alimentaire, Donc, exposition alimentaire via les emballages alimentaires, la vaisselle jetable, et également via l'eau, qui est du coup une exposition importante également.
Ok, donc vous, vraiment, ce que vous prenez avec cette enquête, c'est premièrement l'interdiction de ces PFAS dans tous les emballages à contact alimentaire, comme il a été interdit le bisphénol A il n'y a pas si longtemps.
Ouais, le parallèle est super, c'est totalement ça.
Et deuxièmement, qu'on fasse des vraies études sur l'eau du robinet pour savoir à quel point elle est contaminée.
Ouais, c'est ça. Et puis notamment, une des problématiques qui se posent sur l'eau, c'est qu'il n'existe pas toujours des valeurs de référence, des valeurs seuil pour savoir à quelle concentration on peut se dire que c'est pas grave qu'il y ait une présence de PFAS ou pas. Donc ça va nécessiter un certain nombre d'études qu'il faut enclencher le plus rapidement possible, tout simplement. En France, ça a été, je vais dire, depuis du coup 2017, l'étude de l'ANSES sur l'eau, et 2019, l'étude de Santé publique France sur l'imprégnation des PFAS chez les individus français. On sent qu'il y a un
intérêt.
Un intérêt à des choses qui sont faites au niveau national en plus. Donc je pense que c'est en bonne voie.
Et tu nous as parlé tout à l'heure de députés qui se sont intéressés à votre enquête. Toi, tu la vois prochaine, cette interdiction en France?
Effectivement, je pense que ça peut être une possibilité qu'elle soit proposée assez rapidement et également votée assez rapidement. Ouais.
T'es optimiste, en tout cas,
je suis
plaisir.
Optimiste. Après, quand on est dans son job, forcément, on veut voir
les choses améliorées.
On veut voir le mieux, ouais, c'est ça.
Merci beaucoup, Nicolas.
Merci à vous.
Merci d'avoir écouté Sur le Grill d'Écotable. Nous espérons que cet épisode vous a plu et que, comme nous, vous avez appris de nouvelles choses. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de noter ce podcast 5 sur 5, de vous abonner et d'en parler autour de vous. Sachez par ailleurs que la musique de ce podcast est issue du merveilleux groupe engagé, le Caribou Volant. Et puis, surtout, n'oubliez pas d'aller manger dans les restaurants écotables. À bientôt sur notre grille.